qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie?
Oula, grosse question d'entrée. Je me suis rapidement rendu compte que je ne pouvais pas, entre guillemets, vivre sans dessiner. Je sais que le dessin a une très très grande place dans ma vie, donc... Et le dessin, la bande dessinée, forcément essayer de partager, de raconter des histoires, échanger, ouais, toujours autour du dessin, je pense que c'est ce qui me maintient. Plus, voilà, les amis, la famille, forcément. C'est ce qui me maintient en vie, je dirais.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Sueb Zako, le dessinateur de Dreams Factory, bande dessinée parue aux éditions Soleil.
Alors, au départ, vous aviez une grosse fortune, vous avez décidé de la placer au Luxembourg et en même temps de suivre des études en animation.
C'est ça. Non, malheureusement, c'est même le contraire, je dirais, parce que les écoles d'animation en France sont extrêmement chères, hein, si je peux le dire comme ça. Au Luxembourg, l'école dont je sors était, elle, vraiment très très peu chère. Donc j'ai décidé, puis j'avais entendu dire qu'il y a beaucoup d'excellents éléments qui sont sortis de cette école. Donc voilà, ça m'a interpellé, ça m'a donné envie d'y aller. Et voilà, j'ai fait 2 ans là-bas, c'est très bien passé. Voilà, c'est une petite école. Hein, c'est beaucoup d'élèves en sortant de là-bas vont dans notre école ensuite. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler assez vite en sortant de l'école.
C'est un peu différent que d'être formé à la bande dessinée, l'animation.
Complètement.
Il faut penser la succession des images.
C'est ça. Alors au départ, moi, j'ai grandi avec manga, bande dessinée, comme tous les enfants. Hein. Mais j'ai préféré m'axer à l'animation parce que je cherchais une certaine rigueur dans mon dessin. J'avais envie d'apprendre à dessiner, tout simplement. Je ne regrette pas, vraiment. Puis quand on dessine, voilà, on dessine. Et vu que je viens de l'animation, je peux et animer et faire de la bande dessinée. Le contraire, lui, est un peu délicat. Quand on vient de la BD, on ne peut pas faire l'animation. Et moi, aujourd'hui, j'ai le choix. Je peux, j'ai un pied dans l'animation, un pied dans la bande dessinée. Et comme la BD ne paye pas toujours très bien...
Ah bon ?
Est-ce que je le dis ? Est-ce que tout le monde le sait déjà ? Et ben voilà, ça m'arrange d'avoir ces deux cartes, quoi. Sur lesquels je peux jouer.
Comment ça se passe dans votre tête si on réalisait un scanner? Parce que entre dessiner un mouvement figé, c'est-à-dire en bande dessinée, ou imaginer le mouvement en animation, c'est un peu différent. Toutes les zones ne s'éclairent pas de la même manière.
Oui, bien sûr. Après, moi, du dessin animé, ma spécialité était notamment le storyboard, donc qui consiste à, avec des images fortes, de raconter une scène assez rapidement. Qui finalement n'est pas si éloigné du livre de bande dessinée. Hein. Donc c'est ça, la bande dessinée, c'est quoi? C'est plusieurs dessins qui se succèdent et qui entre elles racontent une histoire. Enfin, même si les gens ont tendance à dire que c'est très différent le storyboard du cinéma, d'animation, du cinéma tout court et la bande dessinée, moi j'y voyais quand même certains ponts. Après voilà, dans la bande dessinée il y a quand même des choses qu'il faut prendre en compte. Hein. Par exemple, l'enchaînement des cases, la lecture, le fait de donner envie de tourner la page, savoir ce qui va se passer derrière, ce genre de choses, voilà.
Vous vous souvenez du premier dessin que vous avez réalisé, enfant?
Alors, le tout premier, non, mais je me souviens de ma période Dragon Ball, où je dessinais des hommes musclés à n'en plus finir. Quand j'étais petit, je pensais que plus on avait de muscles, plus on était fort. Et du coup, mes personnages ressemblaient à des sacs de muscles complètement dégueulasses. C'était horrible. Du coup, on avait des personnages avec des tablettes de chocolat de 24 morceaux. C'était n'importe quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup dessiné des Dragon Ball, de Sangoku, de Vegeta, ce genre de personnages, quoi.
Pendant les cours à l'école, vous dessiniez ou vous étiez attentif aux leçons?
Moi, je pense que j'étais le cliché du dessinateur qui ne suivait pas. Hein. Je me souviens de cet épisode, je ne sais plus si c'était au collège ou en primaire, où j'avais une de mes professeurs qui m'avait interrompu en criant « Web !». Elle m'avait pris mon dessin, elle l'avait déchiré devant moi. Ça a été un épisode assez douloureux, mais ça ne m'a pas empêché de continuer, la preuve. Hein. Je suis là.
Et qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui, à ce professeur?
Je dirais qu'elle a eu raison, parce que dessiner en classe, c'est pas... Quand un professeur donne ses leçons, c'est pas, enfin, c'est un manque de respect, quoi. Mais au fond de moi, il y a quand même une petite fierté qui subsiste.
le point de départ de la formation, c'est l'école au Luxembourg.
Pour commencer au commencement, j'ai fait du vitrail, j'ai fait 4 ans de vitrail. Le vitrail pour moi c'est comme l'aquarelle, comme l'acrylique, c'est juste un médium différent. D'ailleurs, beaucoup disent que c'est l'ancêtre de la BD, vous savez, le vitrail dans les églises qui permettait d'avec quelques imageries raconter une petite scénette, souvent liée à la Bible. Ça m'a donné envie voilà, de continuer et de faire de la bande dessinée, chose que j'ai toujours voulu faire et dans psy, hein, bien sûr. Et l'animation, c'était aussi pour la rigueur. J'avais envie, comme je disais tout à l'heure, d'apprendre à le dessin, quoi, parce que dans l'animation, ce qu'on recherche, c'est le volume, voir évoluer un personnage dans un espace. Et en BD, ça, c'est pas une évidence, quoi. Alors qu'en animation, c'est un besoin. On a besoin de savoir dessiner le personnage sous tous ses angles pour le faire vivre à l'écran, quoi.
Et vous me disiez, dès la sortie de l'école, ça y est, vous êtes lancé.
Voilà, alors justement, à la sortie de l'école, assez vite, Jérôme Hamon, mon scénariste, est venu sur Internet. Il m'a écrit en me disant qu'il aimait beaucoup mon boulot et qu'il aimerait collaborer avec moi. Et au départ, moi, j'étais pas hyper chaud, je vous avoue, parce que je sortais de mes études et j'avais besoin voilà, de travailler. Puis aussi, j'avais envie d'avoir, vous savez, mon petit confort, ma petite vie, mon petit boulot. Et du coup, je me voyais mal partir tout de suite en bande dessinée. Et au même moment, mon éditrice actuelle, Barbara Canepa, m'avait elle aussi écrit. Et les deux, voilà, m'ont réussi à me motiver. J'ai quand même essayé de papillonner entre l'animation et la bande dessinée au départ. C'est pour ça que le projet de BD Dream Factory a mis tellement de temps finalement à voir le jour. Parce qu'en fait, j'avais toujours un pied en animation et j'avais du mal à dire non à certains projets. Je pense notamment à des petits projets assez intéressants comme celui de l'auteur de Black Sad, le dessinateur Juan Roguarnido, qui a fait un clip récemment, je sais pas si vous l'avez vu, avec des rockers. C'est un ancien animateur de Disney, il avait envie de faire un petit clip, et j'ai eu la chance d'animer un peu dessus, en tout cas de l'assister dans ses animations, et je pouvais pas dire non, quoi.
Jérôme Hamon vous a sollicité parce qu'il avait vu votre travail sur votre blog, et d'où la nécessité d'avoir son blog.
Exactement, ouais. C'est l'époque où je commençais à mettre des dessins en ligne, espérant pouvoir décrocher un boulot en animation. Il a vu ça, ça lui a plu, il m'a écrit. Et au départ, je lui ai dit non. Clairement, j'ai dit « Jérôme, je suis désolé, mais je suis peut-être pas chaud bouillant là tout de suite pour la bande dessinée, mais... » Mais il était patient, on a pris le temps de développer un univers ensemble. Je me souviens qu'au départ, il m'avait demandé si j'avais une idée qui me plaisait. Et du coup, je lui avais proposé ce petit pitch d'une sorcière des temps modernes avec son petit sac. Très belle, très, très grande, très influente, qui avait un petit sac. Et qui mettait en fait des enfants qu'elle avait kidnappés dedans, et les enfants en fait à l'intérieur finissent dans une espèce d'usine gigantesque. Et voilà, on était parti de ça, avec ce premier personnage, et de là est né Dream Factory, le bouquin que je tiens en main aujourd'hui.
Avez-vous songé à être à la fois dessinateur et scénariste ?
Alors sur le long terme, c'est ce que j'aimerais faire. Mais je sais que l'exercice d'écriture n'est pas facile. Hein. Je sais que j'ai beaucoup appris grâce à Jérôme sur ce premier tome. Et je vais sûrement beaucoup apprendre aussi sur mes prochaines collaborations, en espérant un jour, j'espère, pouvoir écrire mes propres histoires. C'est aussi pour ça que je me suis un peu... émanciper l'animation, c'est parce que au final, dans l'animation, nous ne sommes qu'un engrenage, alors que en bande dessinée, on a les cartes en main, quoi. On décide de ce qu'on a envie de faire, on est assez libre. C'est ce qui me plaît vraiment dans la bande dessinée, quoi.
Je n'ai jamais eu en main un scénario, celui de Jérôme Hamon pour Dreams Factory. Il représente combien de pages ? Parce que comme il y a très peu de dialogue, on se dit, tiens, c'est 3 feuillets, c'est... 200 pages avec plein d'indications.
Alors ce que j'aime beaucoup avec Jérôme, c'est qu'il ne va, même si l'album donne l'impression qu'il y a peu de dialogue, il a quand même pas mal d'écrit et pas mal donné de direction. Même si au final, voilà, je prends pas, je refais un peu à ma sauce. Mais en tout cas, il y a eu ce matériau de base, quoi, avec lequel j'ai pu jouer au départ. Ça, c'est une grande qualité de qu'a Jérôme.
Et donc, ça fait quoi, 20 feuillets ?
15-20, ouais. 15-20 pages de scénario, je dirais. Je vous avoue, je me rappelle plus trop. J'ai lu au départ et ensuite, assez vite, on m'a fait le storyboard et je suis resté dessus, quoi. Mais oui, facile, 15-20 pages de texte.
Nous pénétrons à l'intérieur de la cour du château des Ducs de Bretagne. Là, on remonte un peu le temps.
J'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance. On m'a dit qu'il pleuvait hier.
Bon, c'est une légende, il ne pleut jamais à Nantes.
En tout cas, c'est pas désagréable, hein, ce soleil.
Est-ce que vous savez ce que c'est que le steampunk ?
Non. Steam, c'est courant, ça, punk ? Je sais pas du tout, jamais entendu ce mot-là.
Dans la bande dessinée, en général, les gens ont tendance à catégoriser. Moi, je vous avoue que je ne considère pas trop ma BD comme étant steampunk. Moi, je la considère comme étant un conte assez large, voire, j'ose dire, universel. On va parler surtout de relation entre une grande sœur qui perd son petit frère, qui va tout faire pour le retrouver. Donc voilà, de relations humaines, on va parler de la condition de travail des enfants, chose qui est assez actuelle, de la place de la femme dans notre société, ce genre de choses, quoi. Après, oui, c'est vrai que dans le visuel, il y a quelque chose de très steampunk, quoi.
Oui, parce que ça a quand même un intérêt pour le dessinateur. Vous nous plongez dans un contexte de l'Angleterre, dans ces folles années de développement industriel.
C'est ça, ouais.
On est en 1892.
Ouais.
Mais là, vous n'êtes pas obligé de strictement observer les décors.
Oui, voilà. Puis dans notre BD, on ne cite à aucun moment Londres, d'ailleurs. Ni le Big Ben, ni tous ces codes qui vont autour, quoi. Puis c'est une version de Londres assez fantasmée, finalement. On prend ce lieu de départ et on essaie de créer notre propre Londres. Voilà, quoi. J'espère que le résultat est satisfaisant, hein. À vous de me dire.
Sur le jeu de couleurs,
oui.
Ça fait partie du style aussi.
Oui, c'est ça. Alors pour le premier tome, on a une histoire assez particulière concernant la couleur. Je devais faire la couleur au départ, mais parce que je ne trouvais pas, et mon éditrice non plus d'ailleurs, on ne trouvait pas que la couleur était satisfaisante. Et du coup, on a eu la chance d'avoir Léna Sayafoum qui s'est greffée à notre projet. Et qui a fait un premier test assez convaincant dès le départ. Dès le départ, on est tombé amoureux de ses premiers tests. Et voilà, elle s'est greffée au projet et on a eu la chance de l'avoir pour le tome 1. Pour le tome 2, on ne l'a plus malheureusement parce que là, c'est propre projet. Hein. Elle est elle-même autrice de BD. Elle a sa carrière, elle a même son succès, hein. Faut le dire. Elle a sa propre BD, Emma et Capucine, qu'elle travaille aussi avec Jérôme Hamon d'ailleurs. Et puis plein d'autres projets à côté. Et du coup, je reprends les rênes. Par rapport à la couleur, ça ne sera pas chose aisée, évidemment, de devoir continuer le boulot qui a été fait sur le premier tome, hein, qui est magnifique. Mais c'est vrai que c'est très bleu, ouais. Il y a une dominance bleue. Ce n'était pas une chose voulue au départ, c'est une chose qui s'est naturellement imposée, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on a tous beaucoup aimé ce bleu, et c'est vrai que petit à petit, ce bleu a pris le dessus, quoi. Laissant un camailleux de bleu sur l'ensemble de l'album. Le tome 2 risque d'être très différent, ceci dit. Il y aura plus, à mon avis, de rouge, peut-être de vert. Parce qu'en fait, dans le tome 1, on est à l'extérieur de l'usine. Donc ce monde très froid. Dans le tome 2, on est au cœur de l'usine, en fait.
Je n'ai pas précisé que c'est un diptyque.
Nous accompagnons dans la rue Sueb Zako, le dessinateur de Dreams Factory, bande dessinée parue aux éditions Soleil.
Pardon, bonjour.
Ouais, on va manger en fait, on a réservé.
Mais vous n'avez pas 5 minutes à nous consacrer ?
Non, je suis désolée.
Vous avez vraiment faim ?
Ouais, on a très très faim.
Qu'est-ce que vous allez manger ?
On ne sait pas encore.
Tant pis, parce que je vous aurais présenté un dessinateur.
Ah ok, je suis désolée.
Vous n'allez pas au restaurant ?
Non.
Est-ce que le matin, vous avez déjà été importuné par les aboiements d'un chien ?
Non, moi ça m'est pas arrivé.
Si, moi ça m'est arrivé, déjà, chez mes grands-parents. Il y a un chien qui aboie tous les matins, c'est un peu désagréable, ça me réveille.
Ça fait vraiment du bruit ?
Oui.
Et ça peut vraiment réveiller un quartier ?
Ah, réveiller un quartier, non. Bah non, ça me réveille parce que c'est la maison d'à côté, mais non, je pense pas.
Et vous ?
Non, pas du tout.
On est sur la première planche, le tout début. Et qu'est-ce qu'on voit ?
Un chien qui aboie et qui... Et c'est marqué qu'il va réveiller tout le quartier. Et du coup, ça réveille tout le quartier, en fait.
Donc, vous me dites que c'est pas crédible.
Non, bah après, j'ai pas dit ça. Moi, je parle de mon expérience, voilà. Ça la campagne.
Puis ça dépend de la race du chien aussi, faut préciser.
Voilà, c'est un gros chien, c'est un petit chien.
Mais on n'est pas obligé d'être crédible.
Voilà, c'est ça. C'est une bande dessinée, on fait un peu ce qu'on veut, hein. Aussi, c'est ça. Je vous laisse feuilleter, allez-y.
Le steampunk, ça vous dit quelque chose ?
Non. Non plus.
Vous lisez un petit peu de bande dessinée ?
Les bandes dessinées, pas trop. Plus des livres.
Ouais, moi non plus, là. Moi, quand j'étais petite, oui, mais maintenant, non, plus trop.
C'est fait pour les petits.
Bah non, pas forcément.
Non, mais bon.
J'espère que ça va vous donner envie de découvrir ce bouquin.
Et vos impressions comme ça en découvrant à la fois le dessin, alors l'histoire, peut-être qu'on vous en dira un mot, peut-être pas, je sais pas.
Bah, c'est bien dessiné.
J'aime bien, ouais.
C'est très gentil.
Vous dites ça parce que Suyab est en face de vous.
Ouais. Ah non, pas du tout, non.
Ça m'aurait étonné qu'elle dise le contraire. C'est particulièrement moche. Le scénario a l'air bien, mais le dessin...
Tout sauf le dessin, en fait. Tout sauf le dessin.
Qu'est-ce qui vous accroche ?
Pas les détails, les petits traits... Je sais pas du tout, alors là... Toi ?
Bah...
Joker.
Ouais, c'est vrai que c'est joli.
Non,
c'est bien
dessiné. Mmh.
Joli, ça vous va comme compliment ?
Oui, 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 c'est très gentil.
Vous voulez qu'on vous dise quoi, en fait ?
Ce que vous avez envie de dire.
Que c'est beau, que ça donne envie de ouais, d'en savoir
c'est
davantage.
Tout à fait ça, c'est exactement, ouais, d'accord.
J'ai toute une liste. De...
Bon, comment on raconte l'histoire ?
Sans trop en raconter, en gros, c'est Londres du début 19e, où dans les rues de notre Londres.
Là, on a Big Ben qui a sonné.
C'est ça, on entend.
Qui vient de sonner, oui.
Donc voilà, il y a des enfants qui disparaissent. Les gens trop occupés à travailler, se nourrir, ne font pas trop gaffe, de manière générale, à ces disparitions. Jusqu'au jour où il y a le petit frère d'Indira, donc qui s'appelle Elliot, disparaît à son tour. Et elle, contrairement aux autres, va tout faire pour le retrouver. En fait, elle va mettre le doigt sur quelque chose qui la dépasse complètement. Donc une espèce d'usine à jouer gigantesque, à la fois magique, mais aussi un peu obscure. Quoi. Elle cache ses secrets.
Est-ce que vous avez déjà confondu du jus de fraise avec du sang ?
Visuellement, jamais essayé, jamais vu.
Non.
On est en face d'un dessinateur, est-ce qu'on a des questions à lui poser ?
Ça prend combien de temps pour faire ça ?
Alors je crois qu'en moyenne c'est un an, mais moi vu que je travaille dans le dessin animé à côté, ça a pris deux fois plus de temps. Je fais animation et bande dessinée. Du coup ça m'a mis deux ans et demi facilement. Mais je ne suis pas un exemple de... Clairement.
Imaginez toute l'histoire ou...
Alors je travaille avec un scénariste, mais tout ce qui est visuel, oui, c'est moi qui l'ai. Sauf la couleur, hein, j'ai travaillé avec une coloriste.
Vous avez fait d'autres bouquins avant ou...
C'est mon premier.
D'accord.
C'est mon tout premier, oui. Ce n'est pas une histoire, je pense, dessinée qu'aux enfants. Hein. C'est une histoire. Ça se voit peut-être moins sur ce premier tome, mais en tout cas dans le tome 2, il y aura un peu plus de révélations et. Et je pense que les gens se rendront compte que cette histoire n'est pas destinée qu'aux plus jeunes. Quoi. C'est vrai qu'en tout cas, dans ce premier tome, on commence avec une base inspirée de contes. Par exemple, Hansel et Gretel, ce genre de choses, où il y a le schéma de... des enfants avec la sorcière, sauf que dans notre histoire, la sorcière c'est un personnage assez beau quoi. assez beau, assez fier, très, très influent. Donc c'est elle qui représente la sorcière dans notre histoire, quoi. On voulait sortir des clichés, vous savez, de la sorcière vieille avec son vieux nez crochu et son petit bouton dégueulasse dessus. On avait envie de proposer quelque chose de nouveau, plus moderne, quoi.
Vous avez déjà rencontré des sorcières ?
Non.
Non.
Mais des patronnes, des femmes qui tiennent bien un groupe ?
Non, non.
Oh non.
Est-ce que on vous a appris le mot « oui » à l'école ? Ou jamais ?
Oui.
Non mais ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que, en tout cas dans notre société, il y a finalement très peu de femmes influentes et fortes, en tout cas à qui on laisse la parole. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec mon scénariste Jérôme Hamon, c'est mettre en avant des personnages forts, féminins et forts, quoi. Je pense que c'est très important aujourd'hui. Voilà.
Ah, il y a une petite revendication, ou une grosse revendication ?
Alors, comme le travail des enfants, on ne voulait pas non plus trop axer notre bande dessinée, trop engager notre bande dessinée politiquement. Mais voilà, on a envie de parler de choses qui nous tiennent à cœur, quoi, forcément. Donc le travail des enfants et la place de la femme dans notre société sont, je pense, très importants. Oui. Puis moi, j'ai grandi essentiellement avec ma mère et ma sœur, donc ça me parle beaucoup, quoi. Ça me parle beaucoup. Je vois pas pourquoi un homme aura plus de facilité dans notre société qu'une femme. Vous êtes d'accord avec moi ?
Ah, complètement, complètement. Non, je suis d'accord.
Je voulais recueillir une impression sur une couverture.
Très jolie.
Est-ce que la couverture peut suggérer l'histoire qui va suivre ?
Éventuellement une aventure avec une héroïne.
Parce que, alors là, je vais penser beaucoup au temps, donc c'est la raison principale.
Et le pont brisé en deux qui...
Il chute quelque part.
Éventuellement...
Tout tombe en morceaux, hein, ça fait penser.
Ouais, après, il y a plusieurs interprétations, mais... En tout cas, c'est joli. Et...
C'est pas un test...
Non, mais voilà, après, je sais pas si c'est vraiment ça le... l'histoire, mais en tout cas voilà, c'est ça que ça fait penser, quoi. C'est un peu aussi hivernal, je trouve, là, ça fait un peu, peu neige, le froid, voilà, un peu, ah, et on voit sur la neige et l'acier.
La réponse était là.
Ça, c'est le sous-titre. Vous lisez de la bande dessinée ?
Ah, non, personnellement non, je suis plutôt bouquin, mais...
Il y a longtemps, avec SAX, Tintin, mais j'étais jeune.
C'est énervant, hein. C'est que quand on est jeune qu'on lit de la bande dessinée.
Malheureusement, mais je pense qu'on a tous même décidé quand on était plus jeune et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se brise en nous. Et moi, bah, j'ai continué, hein. Je fais partie de ceux qui ont continué. Hein. C'est ça.
Et vous en lisiez, oui ?
Toujours, oui. C'est ce qui m'a donné envie d'en faire moi-même. Je vous laisse le fait.
Finalement, c'est que bande dessinée, c'est facile quand on est enfant avec les images. Après, on passe plus facilement au roman et on y reste. On revient plus difficilement en arrière.
Je pensais qu'un texte sans dessin appelle plus à l'imagination qu'une bande dessinée.
Oui, ça fait pas si...
Un texte sans dessin, vous dites ?
Donc un roman.
Oui, pour moi, oui. Je trouve que... Oui.
Non, j'irais que... Oui et non, puisque après aussi, là je vois qu'il y a beaucoup non plus de texte. Donc on doit aussi savoir imaginer le contenu... texte qu'il devrait y avoir par les dessins, donc c'est toujours l'imagination mais dans le sens inverse.
Non, et pour ma part, moi je suis vraiment roman, j'ai très peu lu de BD, c'est sympathique, mais c'est vrai que le roman c'est en général beaucoup plus long, un roman, et quand on rentre dans un roman, ça peut durer des jours et des jours, il y a tout, et c'est vrai que la BD, sauf quand c'est des sagas à la limite, mais c'est vrai que quand c'est juste une BD, j'ai l'impression d'un peu de... C'est court et c'est assez bref. Et c'est pour ça que je préfère les romans, moi, personnellement. Mais après, voilà, je suis pas complètement contre voilà, la BD, mais c'est vrai que c'est un peu ce côté éphémère et furtif que dans le roman, on retrouve pas... Moi, je préfère les romans, personnellement.
C'est un bel argument. Je l'entends assez rarement, finalement, parce qu'on a tendance à assimiler la bande dessinée aux enfants. Ouais, je trouve ça un peu dommage, hein. J'ai 28 ans, je suis pas un bébé non plus. Et j'en fais, donc... Mais c'est vrai que dit comme ça, je le comprends parfaitement. Ouais. Je lis pas beaucoup non plus, mais c'est vrai que le roman offre... comment dire... On n'a pas l'image qu'on doit forcément visualiser, et du coup, on peut s'imaginer à peu près ce qu'on veut, quoi. Selon l'imagination du lecteur, alors que la bande dessinée... on a une image, on doit s'y coller.
Et que pensez-vous de l'adaptation des romans en bande dessinée?
Alors ça, j'ai pas d'exemple. Je sais même pas si ça existe vraiment, il y en a, hein?
Moi, j'ai lu En sortie d'en face de Troyes. Et parce que j'ai lu les romans, les BD, les deux. Puis, c'est pas vraiment une adaptation, mais ça se mélange vraiment beaucoup entre les deux. Et ouais, je trouve que juste les deux, on offre une vision alternative. C'est la même histoire, mais il n'y a pas la même sensation quand on lit que ce soit la BD ou le roman. Et j'ai trouvé intéressant de lire les deux.
Oui, puis c'est la version d'un dessinateur, finalement. Donc c'est intéressant de comparer ce que nous, on imaginait à ce que... un exemple type, par exemple, Harry Potter, je pense qu'il y a plein de choses que beaucoup de gens ont imaginé différemment en voyant les films. On s'est tous dit à un certain moment, ah, je m'imaginais pas comme ça, c'est marrant. Là où à côté, bah, par exemple, il y a des personnages, je pense que Hermione, on l'a tous imaginé comme ça.
Là, vous aviez qui en tête pour imaginer vos personnages?
On a commencé avec la méchante de l'histoire, qui correspond à la sorcière dans notre histoire, parce qu'en fait, on part du principe qu'on s'inspire des contes, par exemple, Ansel et Gretel, où on a des enfants. Et cette figure de sorcière, vous savez, la méchante. Sauf que dans notre BD, on a voulu ajouter une petite touche moderne, où notre sorcière serait pas moche et vieille, mais elle serait grande, belle, forte et influente. Voilà, on a commencé avec elle. Et de là est née l'histoire et les personnages qui gravitent autour, quoi.
Il faut que ce soit crédible, mais qu'elle ne ressemble à personne. Enfin, que les personnages ne ressemblent à personne.
Voilà, donc c'est un exercice assez compliqué, finalement. Parce qu'il faut qu'elle soit très belle, très attachante, mais sans entrer dans la caricature. C'est assez particulier comme exercice, ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle, je l'ai trouvée assez vite, parce qu'on voit jamais son visage. Donc ça, enfin, voilà, on la voit, mais vers la deuxième moitié du livre. C'est un personnage qui reste dans le tome 1 assez énigmatique, je dirais. Dans le tome 2, on en apprendra beaucoup plus. Hein.
Ouais. Et sa première forme ressemblait un peu à sa dernière forme, ou...
Oui,
il y a eu une évolution entre...
Il y a une évolution, mais c'est une évolution d'ordre technique, d'ordre... de dessin, je dirais. L'idée du grand chapeau, de cette petite cape... elle avait au départ un sac où elle kidnappait les enfants, elle les mettait dans son sac, et en fait le sac correspondait à son usine, donc Dreams Factory, qui est son usine à jouets. Et en fait, dans son usine, elle y enferme volontairement des petits-enfants pour travailler et faire des petits jouets destinés à être vendus comme des mortels, quoi.
Ça aurait pu se passer en Chine.
Exactement. Ça aurait fait peut-être un peu cliché. Mais oui, non, c'est ça. C'est ce dont on parle, finalement.
La Laponie aussi.
Ouais, l'Inde, la Chine, enfin, il y a tellement d'exemples types, quoi.
Juste une question, parce que vous aviez l'air d'être effrayé quand je vous ai abordé. Alors, c'est quoi, je fais peur?
C'est peut-être le côté espace personnel, c'est... J'approche.
C'est le micro avec plein de petits... je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est rigolo.
On n'aime pas être abordé dans la rue.
Vous pouvez souvent nous vendre des choses, nous faire signer des pétitions, alors c'est pour ça.
Merci à Sueb Zako, le dessinateur de Dreams Factory, bande dessinée scénarisée par Jérôme Hamon, parue aux éditions Soleil. Et merci à Yves,
Ophélie,
Audrey,
Claire,
Pauline,
Antoine,
Charles,
pour leur libre participation à ce programme.
Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience d'interview en marchant dans la rue?
C'est la première fois que je fais une interview en marchant. Je comprends pourquoi vous le faites, c'est une excellente idée. On se fait aborder, on aborde les gens sur le vif. Et je trouve ça hyper intelligent, finalement. Du coup, j'ai visité un peu Nantes. Je n'aurais pas eu l'occasion, je pense, de visiter Nantes autrement. Donc, merci beaucoup. C'est très gentil.
Ben, merci à vous de vous être prêté à ce petit jeu.
Ouais.
Et puis, je vous sentais complice, en plus.
Oui, moi, je joue le jeu. Hein, puis, ça me fait plaisir, quoi.